Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Les carottes sont cuites. Je répète, les artichauts sont cramés. Les carottes sont cuites. Je répète, les artichauts sont cramés.
Je pense qu'il faudrait résister.
Je dirais même plus, il faudrait résister.
Résistons en Aveyron.
Les élèves de 3e 3 au collège de Jean Jaurès à Saint-Affre
vous ont préparé une émission sur le thème résister avec les 7 stagiaires venus au
fin fond de la Cambrousse aveyronnaise et aidés par les associations OACADI et Radio Saint-Affre.
Ne résiste plus
et suivez-nous
sur le chemin
de la résistance.
Bonjour à tous, ici Laura et Arthur de la classe de 3e 3 en direct sur Radio Saint-Afrique. Nous vous présentons une émission sur le thème de résister.
Au programme, vous allez entendre le travail de toute la classe, des pastilles originales, un micro-trottoir surprenant, des papiers émouvants et des jingles à gogo.
Avant de commencer, spéciale dédicace à Madame Nègre.
Grâce à qui nous avions pu échapper au cours, mais surtout réaliser une émission de ouf.
Allez Laura, lève-toi.
Encore 5 minutes, maman.
Allez.
Ça fait pas 5 minutes.
Mina, dis où tu vas te lever, oui?
Ben non.
Pas se laisser faire.
On aurait des questions pour Radio Saint-Afrique à vous poser. Résister, ça veut dire quoi?
Ne pas m'écouter.
Faire des actions.
Lutter.
Tenir droit.
Ne pas baisser les bras.
Pas tenter la tentation.
Pas se laisser faire.
Se battre pour ses idées.
Ne pas céder.
Faire le mieux possible.
Tenir tête.
Montrer ses forces.
Faire face à la contrainte.
Pas se laisser faire.
Ne pas accepter ce qu'on veut nous imposer.
Appuyer les chines.
Faire savoir ce qu'on pense. Et ne pas se soumettre.
Se mettre en opposition.
Pas se laisser faire.
C'est surtout ça, résister.
À quoi faut résister au quotidien?
Je sais pas à quoi on doit résister.
Ce qui nous embête.
À la tentation.
Pour le moment, au bac. À l'oppression, quelle qu'elle soit.
Tout ce qu'on trouve pas juste.
Aux emmerdeurs.
À l'injustice.
À l'impatience.
À mon père.
À la gourmandise.
Tout ce qui essaie de nous enfermer dans une boîte et dans une case.
T'as la colère,
la mauvaise humeur,
l'hypocrisie,
aux mauvaises tentations.
Ce genre de choses.
À l'envie de partir en vacances, sûrement en ce moment.
Reste calme!
T'es le meilleur.
Bon courage.
Je suis là.
Et no pasaran.
Bah si c'est ta conviction, ne baisse pas les bras.
Je suis avec toi. Continuez, salut.
Courage peut-être.
Et patience, je pense. Hein.
Y a de l'espoir toujours.
Bah bonne chance.
Donne tout.
Résister, c'est surtout lutter pour ses idées.
C'est le cas de Mélanie, que nous allons entendre tout de suite.
Les 3e 3 parlent à Saint-Afrique. Les Aveyronnais parlent aux Aveyronnais.
Notre 9e ville dans l'information est terminée.
Bonheur et patrie.
On a tous ces petits moments, ces actualités qui nous donnent envie de résister. Enfin, moi, je les ai. Je résiste quand mes parents me réprimandent ou me punissent injustement. Quand je suis accusée à la place de mon frère et ma sœur. Pourquoi serais-je responsable s'il est vulgaire ou si elle répond? Je résiste, pour défendre mes idées jour après jour, comme lorsque j'écris dans le journal du lycée. Je lutte lorsque je dois convaincre du bien fondé de mon sujet. Après tout, pourquoi des idées seraient meilleures que d'autres? Je résiste pour que les personnes que j'aime arrêtent de consommer lentement leur vie à coups de bouffées de nicotine. Pourquoi la maladie ne les toucherait pas eux ? Je résiste en tant que délégué lorsque les professeurs dénigrent un élève sur ses mauvaises notes alors que je sais qu'il a donné le meilleur de lui. Ou alors, lorsqu'au contraire, ils encensent un bon élève qui ne fait aucun effort. Pourquoi juger un élève sur les notes qu'il obtient, plutôt que sur le chemin qu'il a parcouru pour les obtenir ? Je résiste face à l'indifférence que provoquent des événements qui me paraissent horribles, la guerre en Syrie qui décime une quantité faramineuse de civils innocents. Tout le monde le sait, mais personne ne bouge. Pourquoi les forces internationales n'agissent-elles pas ? Je résiste pour connaître les réponses à mes pourquoi, parfois envers et contre tout. Nous sommes tous des résistants du quotidien. À nous de nous en montrer fiers.
Cette Mélanie.
En parlant de résistants, on accueille Léon Maillet et Marisette Tarlier.
Au supermarché Révolution, au rayon résistance, pour un panneau acheté, deux slogans offerts.
On veut des slogans, on veut des slogans.
Bonjour, je m'appelle Camille.
Bonjour, je m'appelle Amélie.
Aujourd'hui, nous recevons comme invités Léon Maillet et Marisette Tarlier.
En 1971, vous avez lutté contre l'extension du camp militaire de l'Arzac. C'est quoi pour vous résister ?
Mais c'était sauver notre terre, puisque l'armée voulait nous prendre nos fermes pour agrandir un camp militaire. Et voilà, l'histoire a démarré comme ça, alors que personne ne l'avait prévu. On a appris ça à la télé un jour, et on s'est dit non, on ne veut pas vendre nos terres, on veut rester paysans. Et nous sommes toujours appelés les paysans du Larzac jusqu'à ce qu'on gagne en 1981. Ça fait 10 ans.
Nous, on a 14 ans et pour nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est résister. À quel âge avez-vous commencé à résister et quel a été le déclic ?
Bonne question. Moi, j'ai commencé à résister parce que l'armée est arrivée. Certainement que si l'armée n'était pas arrivée pour me mettre dehors, j'aurais peut-être jamais résisté. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis bon, encore 70 ans, on continue encore un peu.
Résister, c'est aussi de ne pas accepter toutes les décisions que l'on trouve injustes. Il est inadmissible que, puisqu'on parle de l'extension du camp militaire, qu'il y ait eu un tel mépris vis-à-vis des gens qui devaient disparaître. Et donc, apprendre ça par la télévision et dire « vous allez disparaître », c'était inadmissible. Donc, le mépris nous donne des ailes, en quelque sorte, et voilà, et la révolte a commencé.
Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris l'extension du camp du Larzac ?
Vas-y, Marisette.
Eh bien, moi, j'ai appris ça à Millau dans une pharmacie, contrairement aux amis qui ont appris ça à la télévision. Et je n'y croyais absolument pas. Et puis, eh bien, il a fallu se rendre à l'évidence. Et je vous dis, tout de suite, on a été... D'abord, on ne se connaissait pas sur le plateau. Moi, je ne suis pas originaire de l'Aveyron. Je suis arrivée 5 ans avant l'extension du camp. Et pendant 5 ans, je ne connaissais personne. Et là, il a fallu donc se rencontrer, s'écouter, parler ensemble et préparer, résister et préparer la lutte. Alors évidemment, quand on ne se connaît pas, ce n'est pas toujours évident. Mais on voulait se battre. Mais là, c'était très personnel, hein, c'était pour la terre. Et heureusement, très très vite, les idées sont apparues. Et on s'est intéressé à beaucoup plus de choses que de garder notre terre, même s'il fallait garder la terre pour pas qu'il y ait de problème d'extension du camp.
On a commencé à se battre pour garder notre terre. Et petit à petit, on est devenu, disons, solidaire de tout un tas de gens. On est devenu antimilitariste, écologiste, etc. Mais au départ, on se bagarrait pour sauver notre terre, point. Et puis, il y avait tous les conférenciers qui sont venus, souvent des non-violents, ou des prêtres aussi. À l'époque, il y en avait beaucoup. Et donc, on a réfléchi. Mais il y avait même des militaires qui nous soutenaient. Un militaire qui, à l'époque, avait refusé d'employer la torture pendant la guerre d'Algérie. Et il était devenu... c'était un général, en plus. Il était devenu un général non-violent. Et donc, petit à petit, on a conservé notre terre parce qu'on ne voulait pas que l'armée la prenne. Voilà.
Comment la police a-t-elle réagi lors de vos manifestations ?
Ah, ben alors là, ça a été long pendant 10 ans. Je ne sais pas comment vous répondre. Quelques fois, on a eu des gaz lacrymogènes, mais sur l'Arzac, très peu. La seule fois où on nous a envoyé des gaz lacrymogènes, le vent venait vers eux. Donc, c'est eux qui ont tout respiré, pas nous. Mais dans Millau ou à Paris, on en a pris assez souvent, oui.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a eu la découverte de la non-violence. Beaucoup d'entre nous avaient lu sur Gandhi, sur... voilà. Et donc, on a appris très vite, on c'était très tactique au début, on s'en est servi. Et quand les CRS venaient au-devant de nous, on se couchait sur la route ou dans d'autres endroits. Et ils ne savaient pas comment faire. Alors, ils nous prenaient, évidemment, ils se débarrassaient de nous, on se mettait en arrière, on revenait. Et ça, c'est une force extraordinaire. On les a beaucoup embêtés sur la façon dont on s'y est pris vis-à-vis d'eux.
Il faut dire aussi que le fait que nous, on se bagarre, plein de gens sont venus nous soutenir. Après, on n'était pas que nous. Hein. Il y avait tous les gens qui se groupaient en comité. Il y en avait à Millau, puis après, tout autour, il y en avait une centaine en France. Et il y avait toujours des gens qui étaient pratiquement en permanence sur l'Arzac pour nous aider. Donc, s'il y avait une manif, même à l'improviste, et on n'avait pas de portable à l'époque, ni Internet. Hein. On se débrouillait autrement pour se prévenir et tout le monde répliquait assez vite.
Et résister, c'est aussi la solidarité. Il faut s'unir. Hein. Parce qu'autrement, seul... comme dit Léon, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui en train de vous parler. Et ça, c'est une ouverture aussi vers les autres. Et ça, c'est très important. La première grande manifestation qu'on en a fait en 73, bon, voilà, on en a fait, on était très nombreux. Et la seconde, le thème, c'était « Le blé fait vivre, les armes font mourir ». Et on était encore plus nombreux. Et voilà, donc c'est une ouverture d'esprit, vraiment. Mais il ne faut pas rester seul.
Nous, face à la violence, on répond ou on se bat. Et vous, comment avez-vous réagi face à cette violence ?
C'est ce que tu disais, Marisa, par la non-violence. C'est-à-dire qu'il faut prendre le contre-pied de l'adversaire. C'est comme avec un chien. Si vous avez peur du chien, le chien va vous mordre. Si vous avez peur du flic, vous allez prendre des coups. Et on en prend aussi quelquefois. Mais à partir du moment où on n'a plus peur, c'est lui qui est désamorcé. À partir du moment où on n'a plus peur de l'autorité ne sait plus quoi faire. Et on le voit jusqu'à maintenant avec l'histoire des OGM, etc., du gaz de schiste et tout ça. Il faut être ferme dans sa tête, c'est là qu'il y a la plus grande force. Même si des fois, ça peut arriver qu'on prenne un coup de matraque, ça peut arriver.
Cet acte, qu'a-t-il motivé dans votre vie et quel a été le regard des gens après sur vous ?
À la fin de la lutte ?
Oui.
Ben, pendant la lutte, certaines personnes nous comprenaient, d'autres pas, parce qu'on était une poignée de paysans et il y avait des gens qui souhaitaient à la cavalerie, notamment des commerçants qui souhaitaient que le camp se fasse pour améliorer leur ordinaire, si je puis dire. Alors, il y avait ces gens-là qui ne nous comprenaient pas tellement pendant la lutte. Et puis après, c'était aussi très partagé. Certains disaient oui, il n'y a pas le camp militaire, donc ça n'a pas apporté les emplois que l'on pouvait créer à ce moment-là, même si c'était complètement utopique, les emplois créés. Alors voilà, il y avait des gens qui nous comprenaient, d'autres moins. Bon, maintenant, c'est quand même apaisé, ça. Alors, c'est important de rencontrer les autres, mais il y a toujours... Mais je pense quand même les gens nous comprennent maintenant. Mais ça a été long.
On a même eu un signe particulier. Quand le film « Tous de l'Arzac » est sorti, qui a été publié à la télé, il y a eu une dame qui était partisane de l'accession du camp de l'Arzac. Elle a dit à son mari, c'est son mari qui m'a appelé, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'on se régalait de voir ce film ?» J'ai dit « Ah bon ?» À l'époque, elle était plutôt contre nous. Mais là, maintenant, elle n'était pas devenue avec nous. Mais enfin, bon, elle a reconnu notre combat et elle était admirative de la chose. Voilà.
Et maintenant, contre quoi vous résistez ?
Sans arrêt. Hein. Je ne sais pas comment vous répondre. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu hier à la télé, vous l'avez peut-être vu, que c'était du maïs OGM qui a été semé, et c'est l'État qui l'a fait arracher par un tracteur. Et alors c'est le monde de la mer, parce qu'il y a 5 ans, c'était complètement le contraire. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à résister, parce qu'on arrive finalement à gagner. Comme dit Bouvet, il a un très bon slogan, les seuls combats qu'on a perdus, c'est ceux qu'on n'a pas commencés. Pas mal, ça. C'est pas de lui, mais il la répète, la phrase.
À la fin de la lutte, les avocats qui ont été avec nous pendant 10 ans nous ont fait remarquer que nous, on avait gagné, mais qu'eux, ils s'occupaient. Alors, en premier, ils nous avaient parlé des Kanaks en Nouvelle-Calédonie et qu'il y avait du travail à faire. Il y avait une manifestation à Paris, que ce serait bien qu'on y aille. On a tout de suite fait un bus et on est parti à Paris. On a rencontré les dirigeants à ce moment-là et on s'est investi beaucoup pour ces gens dont on prenait aussi la terre. Alors, on a eu beaucoup on a essayé comme ça, petit à petit, de rendre, j'appelle ça, le retour de solidarité. Alors, on a commencé par la Kanaky, la Palestine, et puis après, des choses plus terre-à-terre. Alors, les OGM, bon, ben, c'est inacceptable, on ne peut pas supporter, c'est une chose comme ça, qu'on puisse contaminer beaucoup de gens, et notamment les gens qui cultivent bio à côté d'un paysan qui cultive avec les OGM. Alors, on est devenus faucheurs. Et puis, on n'a pas arrêté. Et puis, alors, après, est arrivé le problème du gaz de schiste. Alors, le gaz de schiste, c'est pareil. Nous, on avait été méprisés quand on nous a appris l'extension du camp. Et les gaz de schiste, que ce soit toutes les communes et toutes les élus, et tous les élus, personne n'avait été prévenu. Et ils ont eu l'audace de... Le premier forage, ils voulaient le faire dans le sud du plateau, à Nantes. Et la première manifestation a été faite à Nantes et il y avait un monde formidable. Alors tout ça, je ne sais pas, il y a les choses qui s'en mêlent et on est quand même souvent partant, tout le temps même.
Comme disait un Américain, il est pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Donc il faut toujours lutter, quoi, là. Même si des fois on ne réussit pas tout le temps.
Quel message avez-vous à adresser aux jeunes ?
Ben voilà, ce que je viens de vous dire ensemble. Mais il faut résister, je veux dire, résister, c'est vivre, quoi. Le type qui résiste pas, qui est comme mouton de panurge, il va pas aller loin, quoi. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les lobbies, la puissance de l'argent qui est énorme derrière. Alors, si on résiste pas, on se fait avoir vite fait.
Ben, merci d'avoir répondu à nos questions.
Et merci pour votre temps. Maintenant, Camille va nous présenter comment elle résiste au quotidien dans son sport, le rugby.
Résister.
Dans un match de rugby, je vois tout de suite comment les garçons considèrent les filles. Certains adversaires disent « t'as pas ta place ici ». D'autres en profitent pour nous toucher. Il y a même des entraîneurs qui incitent les garçons à profiter de certaines situations. Ils pensent que les filles ont moins de force. Moi, j'en ai plus que certains gars de l'équipe. Ils font tout pour nous décourager. Ils savent que c'est ce qui va vraiment nous énerver. T'es obligé de prendre sur toi pour montrer que tu es plus intelligente et aussi parce que si tu tapes, l'entraîneur ou l'arbitre te sortent. Quand c'est un garçon qui a le ballon, ses adversaires le plaquent pour pas qu'il marque. Et quand moi j'ai la balle, il me plaque aussi. Au passage, certains en profitent pour mettre les mains où il ne faut pas. Une fois, à un tournoi, mes adversaires essayaient de m'enlever le short. C'est mon équipe qui m'a défendue. Je l'ai insultée et je me suis vengée en plaquant un garçon et en lui écrasant les testicules. Au rugby, c'est plus dur quand t'es une fille parce qu'il faut résister physiquement et mentalement aussi. Mais le rugby, ça soude une équipe. Nous, les filles, on est plus chouchoutées par les garçons. Par exemple, quand j'ai froid, ils se dépêchent pour me donner un pull. L'an prochain, je serai obligée de changer de catégorie. Je ne jouerai qu'avec des filles. Ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas la même ambiance. Je trouve que les filles, ça cherche des embrouilles pour rien. Les garçons, eux, ne se prennent pas la tête. Si je fais du rugby, c'est pour rendre fier mon père. Chez nous, c'est de famille. Mon frère fait aussi ce sport. Par contre, à la maison, mon père me demande toujours de mettre la table, de faire le ménage, rarement à mon frère. Là, je dis, demande à ton fils, je me casse et j'écoute même pas sa réponse. Si je fais du rugby, c'est parce que j'aime ça. Mais j'avoue que ça m'aide à affirmer mes idées devant mon père et mon entourage.
Elle m'impressionnera toujours, cette Camille.
Comme quoi l'humour peut être une forme de résistance. D'ailleurs, Thomas Soudan, comédien, en connaît un rayon.
Ça me saoule.
Tu me saoules.
Vous me saoulez.
Ça me saoule.
Tu me saoules.
Vous me saoulez.
Ça me saoule.
Tu me saoules.
Vous me saoulez.
Bonjour, moi c'est Colline.
Et moi c'est Mélanie.
Nous accueillons aujourd'hui Thomas Soudan.
comédien dans la troupe Molotov et co-créateur avec son vieux pote Nicolas Ibanez du duo AWAC, Artists Without Cause. Thomas, bienvenue sur ce plateau.
Merci, bonjour.
Comme beaucoup d'enfants, j'ai fait du théâtre pour amuser mes parents. Mais vous, pourquoi avez-vous décidé d'en faire votre métier ?
Alors ça, c'est une vieille histoire. Pourquoi je fais du théâtre ? Parce que, comme toi, j'ai toujours aimé jouer, peut-être. J'ai toujours aimé m'amuser quand j'étais petit. D'ailleurs, seul ou déjà avec mon collègue Nicolas Ibanez, dès qu'on était petit, on jouait ensemble. Donc j'ai toujours aimé jouer, toujours aimé faire l'idiot. Et voilà, parfois, ça nous mène dans des métiers un petit peu particuliers. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu comédien.
Vous avez formé le duo Artists Without a Cause, c'est-à-dire artistes sans cause. Donc finalement, on pourrait penser que vous ne défendez rien. Défendez-vous quelque chose ?
Et voilà, toute l'histoire est là. Artistes sans cause, AWAC, on le définit comme pas de cause, mais leurs effets. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le pourquoi, mais plutôt le comment on fait. Comment on arrive à créer, à interloquer un public, à interloquer des gens par une création, par une production. Bien sûr que derrière tout ça, il y a beaucoup de réflexions de pourquoi on fait les choses. Mais comme on vit dans un monde où nous, du moins, on est tiraillés par beaucoup de contradictions, beaucoup de paradoxes, ce qui nous intéresse, c'est toujours ça, prendre des contraires et travailler autour.
Dans tous les arts, on exprime souvent une idée, une résistance. D'après vous, est-ce que les comédiens sont des résistants ?
Ça je vais vous répondre à ma manière, dans la manière dont moi je vois notre travail. Pour moi, sur scène, c'est pas un endroit où on milite. Je fais vraiment la différence entre résistance et militer. Une compagnie peut militer dans son fonctionnement. Moi, personnellement, je peux aller militer dans la rue, comme nos invités tout à l'heure, ou pour des droits, bien sûr. Là, en ce moment, on est embêté avec les intermittents qui bloquent des festivals, et ils ont bien raison, ça, il n'y a aucun souci. Mais après, quand on crée quelque chose, quand on est vraiment des créateurs d'une forme théâtrale ou qu'on cherche à créer quelque chose, je crois qu'il ne faut pas chercher à militer, mais à résister. Bien sûr, il y a une résistance dans les formes théâtrales. On cherche notamment à bousculer certains codes, à questionner la représentation. Donc bon, voilà, c'est toute notre recherche personnelle. Mais la résistance, elle est là, elle est de créer avant tout, d'avoir confiance en soi, trouver sa confiance de créateur, trouver un prisme un petit peu. Notre résistance, c'est d'inventer. Alors on n'est pas assez, je suis quand même humble, et je n'ai pas la prétention de dire que j'invente des choses. En tout cas, j'essaye d'être une éponge et de réinventer avec mon collègue, parce que ça c'est vraiment un travail qui se fait à deux, de réinventer des choses. Et la résistance, elle est peut-être pour nous, elle est là, quoi. Le théâtre, c'est une longue histoire, ça existe depuis des millénaires, et pourquoi pas aujourd'hui, on arriverait à trouver notre façon de faire du théâtre, notre façon de dédramatiser l'art aussi. Parce que l'art, pour beaucoup de gens, c'est triste, ou c'est compliqué, ou c'est prise de tête. Et voilà, encore une fois, nous, on aime bien se situer entre l'artiste, avec un grand A, qui se prend la tête, qui réfléchit, et l'artiste qui fait des choses aussi simples, qui essaye d'être proche des gens, on va dire.
Et comment résistez-vous, vous, dans votre vie de tous les jours ?
Moi, j'avoue, j'ai aucune honte à dire que je ne suis pas un grand, grand militant, et c'est pour ça que je suis très respectueux des gens qui ont fait des choses et qui l'ont fait jusqu'au bout. Moi, ma résistance, elle est sur scène, elle est dans le fait de créer, de bricoler, j'aime fabriquer, j'aime théâtralement, artistiquement créer des choses, et voilà, dans ma vie, elle est surtout là. Si je questionne, tout le truc, c'est de provoquer la pensée des gens. C'est pas, tu fais pas une pièce de théâtre pour donner des solutions. Tu questionnes, tu provoques la pensée. Et moi, qui aime bien réfléchir sur des choses, j'aime bien quand je me dis « Ah, j'avais compris un truc sur quelque chose dans la vie », et puis si on me le met en pleine face, des fois, ça permet de le voir différemment et de se dire on croit qu'on est protégé de certaines, qu'on se protège ou qu'on est plus intelligent que certaines choses, alors que pas du tout.
Et au quotidien, vous luttez pas contre des petites tentations ou le réveil, des choses comme ça ?
Pardon ?
Vous luttez pas contre des petites choses du quotidien ? Enfin, je sais pas, les gens qui traversent pas sur le passage piéton ou des choses comme ça. Vous avez pas ces petits combats ?
Ouais, si, bien sûr, mais Mais si tu veux, je me questionne beaucoup dans qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais fabriquer artistiquement. C'est plutôt ça ma résistance personnelle.
Même un Kinder Bueno, vous êtes sur la table.
Si, même aux sneakers, bien sûr. Ça, il n'y a aucun problème. Mais... Non, bien sûr, bien sûr.
Merci d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Eh bien, au revoir et à très bientôt.
Donc après cette interview, une autre force de résistance avec Juliette.
Avant, je me laissais faire. Maintenant, je résiste.
On peut céder à quelqu'un par manque de courage, par excès de confiance, gentillesse ou soumission. On peut aussi choisir de résister et de dire non. Moi, je cède trop facilement. Cette action se passe au self. Comme d'habitude, je mange avec mes amies. Une d'entre elles avait compris que je cédais facilement. Elle en profitait et me demandait de faire beaucoup de choses pour elle. La suivre dans le collège, lui rendre des petits services, lui tenir ses affaires. Ce midi-là, elle me dit « Va chercher de l'eau, pas de s'il te plaît, rien du tout ». Je lui ai répondu sèchement « Non ». Elle a été surprise, a continué d'insister. Mon nom s'est affirmé. Elle s'est énervée, m'a crié dessus, et pour la première fois, j'ai répondu. La dispute a éclaté en plein milieu du self. Je me suis dit « Waouh, je suis capable de dire stop et de m'affirmer ». À partir de ce moment-là, je me suis sentie soulagée, heureuse et capable de dire non, quand j'en ai envie. Aujourd'hui, il me reste encore des progrès à faire, savoir dire non au bon moment et accepter certaines choses, mais surtout, être en accord avec mes envies.
Les émotions peuvent avoir des conséquences sur le corps.
Chloé et Heidi nous livrent leurs témoignages sur leur combat au quotidien.
Mais si rien résiste, tout s'effondre.
Je résiste contre l'eczéma depuis toute petite. Et aujourd'hui, je résiste mieux, grâce à ma mère. Au début, je ne faisais pas tout ce qui était nécessaire pour guérir. Je faisais pas attention à ce que je mangeais, même si cela pouvait me provoquer des allergies. Mais un jour, j'ai eu un déclic. Ce déclic, je l'ai eu en voyant ma mère pleurer chez le médecin. Une fois de plus, il nous a dit qu'il ne pouvait pas vraiment nous aider, juste me faire passer des tests inutiles. Maintenant, je combats l'eczéma. Je fais plus attention à ce que je mange. J'évite les poils d'animaux. Par exemple, je me lave bien les mains après avoir caressé mon chien. Je veux guérir pour ma mère, pour qu'elle soit heureuse de me voir sans eczéma. Elle m'aide beaucoup à résister. Cela n'a pas toujours été évident. Petite, j'ai traversé de nombreuses épreuves. J'avais peur du regard des autres à l'école. Mais j'ai plutôt eu de la chance, on ne se moquait pas vraiment de moi à l'école. Plus tard, je ne veux plus de cet eczéma. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et puis je trouve ça moche. J'ai appris que si l'on ne se soigne pas pour soi-même, il faut au moins se soigner pour l'autre. Pour le rendre heureux.
Résiste, résiste, résiste.
Quand on a de l'asthme, on sent vite ses limites, on s'essouffle vite, on perd nos forces. Je pense que le sport est un moyen de résister, d'être plus fort que la maladie. Moi, par exemple, je suis asthmatique depuis ma naissance, en plus d'être hyperactive. Mais grâce au sport, ma respiration s'est améliorée. Ça fait bientôt 6 ans que je pratique le handball. Je me sens mieux. J'ai toujours ma ventoline avec moi. C'est devenu psychologique. Quand je ne l'ai pas, je me sens mal. Une crise peut arriver à tout moment. Mais le sport m'a aidé à savoir jusqu'où je pouvais aller et même à dépasser mes limites. Chaque jour, je progresse. Je fais un sport collectif. Je sais que je peux compter sur mes partenaires. Quand je fais une petite crise, mes coéquipières me réconfortent. Un jour, j'ai fait une crise pendant un match. À tour de rôle, les joueuses sont venues me réconforter. Maintenant, je sais que je peux compter sur elle. Quand il était petit, mon père a fait du taekwondo. C'est ça qui l'a aidé à combattre son asthme. Aujourd'hui, il n'a plus d'asthme du tout. Ce handicap ne lui pourrit plus la vie. On en parle souvent et on fait des exercices de respiration. Étirement, inspiration, expiration, tout cela nous rapproche. Je me dis que là où mon père a réussi, je peux réussir. Pour l'instant, le hand, ça me permet de mieux respirer. Mais je sais que j'ai pas fini de résister.
Super résistant,
viens à votre secours.
Un homme est mort, qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort, qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort, qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur. Et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages. Et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Perry. Perry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le. Sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous. Son espoir est vivant. Paul Éluard.
Il est dans la nature de l'homme d'opprimer ce qui cède et de respecter ce qui résiste.
Le racisme, l'homophobie, l'indifférence peuvent nous arriver un jour ou l'autre.
Mathilde, avec ses mots et ses histoires, nous livre un peu de son vécu.
Ce qui me choque le plus chez l'être humain, c'est son culot. Comment peut-on ne rien ressentir quand on se moque d'une personne ? C'est donc comme ça que se dégrade l'humanité ? Face au racisme et face à l'homophobie, qu'une envie, résister et aider les autres à résister. Le racisme, ma famille connaît. Un grand-père tunisien, une grand-mère française, deux enfants, ma mère et mon oncle. Mon oncle est très mat de peau. Ma mère est blanche. À cause de sa couleur de peau, mon oncle a été victime de racisme. Résultat, bagarres, disputes, menaces. Et ça continue encore avec ses fils, qui ont les mêmes problèmes que lui au collège. Pourquoi détester quelqu'un de couleur différente ? Pourquoi détester quelqu'un amoureux d'une personne du même sexe ? L'homophobie, on connaît aussi. Ma tante a tenté de lutter contre l'homophobie. Elle avait 12 ans quand elle s'est aperçue qu'elle aimait les femmes. À partir de là, elle a vécu l'enfer. Insultes, menaces, surtout dans cette merveilleuse période qu'est l'adolescence. Haha, l'adolescence, les ados sans pitié. Ma tante s'est suicidée. Elle a cédé, fatiguée de résister, à 38 ans. Je suis déçue par son acte. Il y a tellement mieux comme solution. À cette bêtise, elle aurait pu opposer l'indifférence, même si c'était dur. En parler, ne pas se renfermer. Mais je suis fière qu'elle ait assumé son statut d'homosexuel autant d'années. Jamais de la vie, je n'accepterai que quelqu'un de mon entourage blesse un être parce qu'il le considère différent. Nous sommes tous différents.
Résister, verbe transitif, avoir la force physique ou morale nécessaire pour ne pas céder, pour affronter quelque chose ou quelqu'un.
Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission. C'était Arthur et Laura à l'antenne.
À vous les studios.
Ciao.
Ciao.
C'était Jean-Jo Micro avec Geoffrey,
Alexia,
Arnouk,
Antoine,
Luca,
Laura,
Julieta,
Volcan,
Arthur,
Chloé, Léa,
Mathilde,
Julia,
Julie,
Amélie,
l'autre Julie,
Marie,
l'autre Chloé,
l'autre Laurent,
Heidi,
Colline,
Camille,
Corentin
et Mélanie.
Pour une émission sur le mot résister.
Allez, ciao, hein.
Maintenant, allez traire les fèdes, hein.